Radio Prague, les informations. Bonjour, le ralentissement du taux de croissance de l'économie tchèque en 2008 a été plus important que prévu. Une conférence se tient à Prague pour le 10e anniversaire de l'adhésion de la République tchèque à l'OTAN. Et enfin, les ministres de la Défense des 27 sont eux aussi réunis à Prague. Selon l'Office tchèque des statistiques, le taux de croissance de l'économie tchèque en 2008 s'est élevé à seulement 3,1%, soit 0,4 points de moins que ce qui avait été pronostiqué à la mi-février. Au cours du quatrième trimestre de l'année dernière, le taux de croissance a été de 0,7%, soit une baisse de 0,9% par rapport au troisième trimestre. Il s'agissait de la première baisse enregistrée depuis 1998. Pour 2009, les analystes prévoient une récession du produit intérieur brut qui pourrait se situer entre 2 et 3,5%. Une conférence internationale se tient ces jeudis et vendredis au siège du Sénat à Prague en présence de nombreuses personnalités des sphères militaires et politiques pour marquer le 10e anniversaire de l'adhésion de la République tchèque à l'OTAN. Cette adhésion était un des principaux objectifs de la politique extérieure de la République tchèque après la révolution de 1989, a indiqué le président de la République, Václav Klaus, qui prononcera à cette occasion un discours au château de Prague. La dimension politique de l'élargissement de l'OTAN en 1999 à trois nouveaux pays ayant appartenu au pacte de Varsovie, parmi lesquels également la Hongrie et la Pologne, et les transformations de l'organisation qui s'en sont suivies seront deux des principaux thèmes abordés au cours de la première journée de la conférence. Les ministres de la Défense des 27 pays membres de l'Union européenne sont réunis à Prague à l'occasion de la réunion informelle qui débute ce jeudi, le jour où la République tchèque célèbre donc le 10e anniversaire de son adhésion à l'OTAN. Les opérations militaires placées sous la tutelle de l'Union européenne, la résolution des capacités de transport des unités des États membres ou encore les formes de collaboration avec l'OTAN ou l'ONU figurent notamment au programme des deux jours de discussion. Les opérations en cours en Bosnie-Herzégovine, au Tchad, en République centrafricaine et les opérations maritimes menées contre les pirates somaliens seront également débattues, le tout en présence du secrétaire général de l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. La part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité en République tchèque devrait doubler d'ici à 2030. Tel est le principal enseignement qui ressort de la présentation de la nouvelle conception énergétique nationale faite ce mercredi par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce lors du congrès énergétique qui se tient à Prague. Actuellement, un tiers environ de l'électricité produite en République tchèque provient des deux centrales nucléaires existantes. La nouvelle version de cette conception, qui planifie la politique énergétique du pays jusqu'en 2050, devrait être débattue par le gouvernement à l'automne prochain. En football, Pavel Nedved ne remportera jamais la Ligue des Champions avec la Juventus de Turin, tenue en échec 2 buts partout sur sa pelouse par Chelsea mardi soir en match retour des 8e de finale. Le club italien est en effet éliminé de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs. À l'aller à Londres, les Anglais s'étaient imposés 1-0. Âgé de 37 ans, Pavel Nedved a déjà indiqué qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la saison. On termine avec un mot de météo. C'est un temps couvert avec quelques pluies par endroits qui règnent sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Géorges. Les températures sont plutôt fraîches et se situent entre 3 et 7 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Campagne pour empêcher la disparition de certaines professions manuelles. Un nouveau projet de master commun entre les universités de Plzeň en Bohême et d'Arras en France est en train de voir le jour. Le festival One World, destiné à promouvoir les meilleurs documentaires consacrés à des thèmes sur la société, l'engagement politique et les droits humains, a commencé à Prague. Roger Herrera évoque sa collaboration avec le poète et traducteur Jan Vladislav, son ami. Tels sont les thèmes de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Le métier d'artisan vaut de l'or. L'artisanat demeure vivant. Tel est le slogan de la campagne pour promouvoir l'apprentissage qui vient d'être lancée par la municipalité de Prague et qui coûtera 2 millions de couronnes. Explication de Alena Gebertova.
Charpentier, forgeron, boulanger, cordonnier, vitrier, maçon, couvreur, ferblantier, relieur. Voilà les métiers qui manquent dramatiquement de main-d'œuvre, et ceux qui les exercent représentent ce que l'on a l'habitude d'appeler une espèce menacée. Si le problème touche l'ensemble de la République tchèque, il est particulièrement ressenti dans la capitale du pays. La municipalité de Prague a décidé d'agir en lançant une campagne dont le but consiste à attirer les écoliers et collégiens vers des centres d'apprentissage et des écoles techniques, à augmenter leur prestige aux yeux du public et à empêcher la disparition de certaines professions manuelles. Elle se déroulera sous forme d'actions de promotion et d'information destinées aux mineurs et à leurs parents, sous forme aussi de différents concours, de débats, de panneaux publicitaires. Les artisans qui viennent de l'étranger ne sont plus à même de remplacer la main-d'œuvre qualifiée, répondant aux standards qui sont courants en République tchèque, précise Marie Kousalikova, maire adjointe de Prague. À présent, il n'y a à Prague, qui compte plus d'un million d'habitants, que près de 3000 apprentis, toutes disciplines confondues. Selon certaines évaluations, ce chiffre risque de baisser radicalement au cours des prochaines années, au moment où, paradoxalement, la demande d'artisans de qualité a tendance à augmenter. Certains s'attendent à ce que la situation dans ce domaine s'améliore en réaction à la crise économique. Il n'est effectivement pas rare de voir d'ores et déjà d'anciens universitaires suivre des stages de reconversion pour devenir, par exemple, ramoneur.
Un nouveau projet de master commun entre les universités de Plzeň en Bohême et d'Arras en France est en train de voir le jour. Si tout va bien, les premiers étudiants pourraient commencer à la rentrée prochaine. Pour parler plus en détail de ce programme, Alexis Rosenzweig a rencontré Marie Fenslova, vice-doyenne de la faculté de lettres de Plzeň. Elle est à l'origine de ce projet.
Il s'agit d'un projet qui est destiné à former les enseignants de français langue étrangère, mais en plus avec la spécialisation, c'est-à-dire pour former les enseignants capables de orienter l'enseignement vers la spécialisation des étudiants. Il ne s'agit donc pas uniquement de la langue française tant qu'elle est, généralement la littérature, la grammaire, mais il s'agit aussi de la préparation de la jeunesse pour les professions. Et ça correspond avec le besoin de notre chère Europe qui compte sur les échanges des travailleurs, de la main-d'œuvre qui devrait bouger, bien sûr, si elle le désire.
Alors, c'est un cursus sur combien d'années et quel diplôme obtiendrait-on à la fin de ce cursus ?
C'est un cursus de 2 années. C'est le cursus de master qui est continuation de la licence précédente. Les étudiants qui sont intéressés à participer à son programme doivent avoir achevé le niveau de licence consacré à la langue française, soit en France, soit en République tchèque. Et il faut ajouter que ce cursus est préparé, ou nous sommes en train de préparer ce cursus à l'université de Plzeň.
Alors pourquoi votre université de Plzeň a choisi l'université d'Artois, l'université d'Arras ?
L'université d'Artois est une des premières, sinon la première, qui en France respecte le besoin de spécialisation de la langue pour les buts pédagogiques. La France développe, bien sûr, le français langue étrangère comme spécialité dans beaucoup d'universités, un peu partout. Il y en a vraiment beaucoup et le niveau est extrêmement élevé pour ces formations. Mais l'université d'Artois est la première qui a pris en conscience le besoin de former les jeunes pour les professions, non pas seulement pour le savoir, si vous permettez, ou pour le respect de la beauté de la France, de la langue française, et pour les sympathies de cette région.
C'était Marie Fenslova, vice-doyenne de la faculté de lettres de l'université de Plzeň. L'accréditation finale de ce nouveau master tchéco-français doit être discutée par une commission spéciale début avril. One Word en tchèque, Jeden svět, est aujourd'hui le plus grand et le plus important festival de films des droits de l'homme en Europe. Chaque année, depuis 11 ans, One Word présente une sélection de films venus du monde entier et s'attache à promouvoir les meilleurs documentaires consacrés à des thèmes sur la société, l'engagement politique et les droits humains. S'adressant cette année en priorité à la jeune génération d'après 1989, le festival a choisi de mettre en ligne gratuitement plusieurs films sur son site web, comme l'a expliqué Teresa Porybna au micro d'Anna Kubišta.
Cette année, on a mis 24 films sur Internet et ce sont les films sur la démocratisation dans les pays de l'Est, surtout les pays Visegrad, donc c'est Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, mais aussi les documentaires sur l'Allemagne de l'Est. Et c'est une collection qui offre plusieurs des regards, donc nous pouvons s'informer sur l'économie, sur la vie quotidienne, et aussi ce sont les documentaires du début des années 90 jusqu'aujourd'hui.
One World est quand même un festival qui a 11 ans d'existence. Le spot cette année, donc il y a des petits bébés, et One World a également fait des bébés, d'après ce que j'ai cru comprendre également. Vous parliez tout à l'heure en présentant de festivals similaires qui ont été inspirés par One World dans d'autres pays.
Il y en a beaucoup. En fait, nous avons préparé un petit livre sur tous les festivals de droits de l'homme que One World a inspiré. Et c'est vraiment intéressant parce que quand vous lisez ce livre, vous pouvez lire des exemples sur Kenya, Roumanie, Serbie, Kyrgyzstan. Donc tous ces pays étaient inspirés, mais chacun avec son propre façon. Donc c'est l'inspiration, c'est l'aide, mais aussi on donne beaucoup de liberté à notre collaborateur. Donc ce ne sont pas des jumeaux, ce sont vraiment des individus.
Est-ce que vous pourriez me rappeler comment à l'origine est né ce festival il y a 11 ans?
L'idée initiale était de montrer aux Tchèques où sont les pays qui ont besoin de l'aide humanitaire. L'idée était très simple. Il faut concrétiser la souffrance, il faut donner des histoires, il faut donner des images. Et le festival nous paraissait comme un moyen très, très bien fait pour cela.
Est-ce que vous avez remarqué justement une hausse ou plus, j'allais dire, d'inscriptions de personnes qui veulent donner et qui deviennent des amis du club de People in Need, cette grande ONG justement tchèque?
Oui, le festival aide beaucoup. Chaque année, nous projetons des spots sur le Club of Friends of People in Need, Club des Amis. Et ça aide beaucoup parce que c'est vrai que les gens nous vivons dans une culture qui est une culture d'image et ça aide. Quand par exemple l'année dernière avec Congo, on a collecté je crois 500 000 couronnes pendant le festival pour une clinique à Congo. Et c'était grâce à Club des Amis et grâce à ce film-là, parce que les gens voyaient exactement ce qu'il passe là-bas.
Merci. Roger Herrera, conseiller d'État honoraire et ancien membre du Comité des droits de l'homme de l'ONU, a beaucoup contribué à une meilleure connaissance au-delà du rideau de fer de la vie et de la pensée des dissidents tchèques. Ce mardi, Roger Herrera a assisté à Prague aux obsèques du poète et traducteur Jan Vladislav, son ami et collaborateur. À cette occasion, il a évoqué au micro de Radio Prague la vie de Jan Vladislav, sa résistance au régime communiste, son émigration en France entre 1981 et 2003, et son retour en Tchéquie à la fin de sa vie. Voici un extrait de cet entretien qui sera diffusé dans son intégralité ce samedi dans le cadre de la rubrique « Rencontres littéraires ».
Dès le début de 1989, bien avant l'écroulement du mur de Berlin, j'avais l'idée de proposer à un éditeur français de publier une collection, un recueil d'essais politiques de celui qui était connu, mais pas très connu, Václav Havel. C'est un éditeur français, la maison Kalman-Lévy, qui a accepté ce projet. J'ai immédiatement dit à Jan que je ne pourrais le faire qu'en collaboration avec lui, pour des raisons évidentes, non seulement d'amitié, mais de traduction et de compréhension du sens. Et c'était pour moi un honneur et un plaisir d'être le co-auteur de ce recueil d'essais qui a été publié à Paris, je crois, quelques semaines après l'élection de celui qui était devenu entre-temps le président Havel. Et le livre a eu un certain succès puisqu'il a été publié en livre de poche et qu'il a permis, je crois, aux Français à l'époque de mieux connaître les écrits et la pensée de celui qui, de dissident, était devenu le premier président de la Tchécoslovaquie redevenue libre.
Revenons encore au séjour de Jan Vladislav en France. Il y a dirigé, n'est-ce pas, un séminaire sur la culture non officielle. Comment ce séminaire était perçu et reçu par les étudiants?
Je ne sais pas, n'ayant pas assisté à ce séminaire, ce que je puis dire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'enseignements de cette nature à Paris, que l'on parlait plus à l'époque des dissidents soviétiques, des dissidents russes, ou polonais que des dissidents tchèques. Mais Jan a eu le souci justement de ne pas parler uniquement de son pays, mais d'essayer de faire comprendre à son public ce que c'était que cette pensée libre, cette pensée dissidente, et à quel prix ces écrivains, ces auteurs, ces compositeurs, ces artistes maintenaient une liberté de culture, une liberté d'expression dans un régime qui voulait étouffer non seulement l'avenir et la culture, mais qui voulait aussi priver de la mémoire du passé. La leçon qu'il nous donne, et qui restera bien après sa mort, c'est la démonstration que l'on peut dire non, que l'on peut refuser de participer aux mensonges, d'être un agent de la servitude, que ceci a un prix, et que cet exemple vaut non seulement pour le passé, mais pour le présent et pour l'avenir.
C'est donc par les paroles de Roger Herrera que prend fin ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Merci de l'avoir suivi. Et si vous aimez l'histoire, ne quittez pas l'écoute, votre moment est venu.
Chapitre de l'histoire tchèque.
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle rubrique de l'histoire sur Radio Prague, une émission qui a été préparée par David Allon et qui vous est présentée par Anna Kubishta. Les émeutes de février dernier en Guadeloupe ont été commentées par les médias internationaux, mais on a généralement oublié celles de mai 1967 à Pointe-à-Pitre, qui finirent de manière tragique. Aux sources des émeutes, on trouvait un tchèque, l'occasion de rappeler les événements et d'esquisser en toile de fond une rapide histoire de la présence des tchèques dans le monde. Les émeutes de 1967 en Guadeloupe sont peu connues, et pour cause, l'État français maintient ce qu'on pourrait appeler une espèce d'omerta sur ce crime qui fut tout sauf une bavure. Plus surprenant, on trouve aux sources des émeutes un tchèque dénommé Srinsky, commerçant naturalisé et installé de longue date en Guadeloupe. Tout commence en mars 1967 à Basse-Terre, dans le sud de l'île. Un noir, petit cordonnier, vient s'installer devant son magasin de chaussures. Srinsky lui ordonne de partir et lâche finalement son chien loup qui attaque le cordonnier, infirme de surcroît. Ce fait divers raciste et impuni mettra le feu aux poudres et les émeutes éclateront 2 mois plus tard, en mai 1967, à Pointe-à-Pitre. Il faut dire que l'affaire a engendré un véritable scandale. Skrinski est un personnage connu à Basse-Terre, actif agent électoral de l'Union pour la Nouvelle République, l'UNR. Il est étroitement lié au milieu gaulliste. C'est même un proche de Jacques Faucard, éminence grise de De Gaulle, et qui jouera un rôle ambigu dans la répression qui fera environ 80 morts parmi les manifestants, la police ayant tiré dans la foule. Quant à Skrinski, les autorités françaises jugeront plus prudent de l'expulser sur une autre île. Aussi antipathique qu'il nous apparaisse, Skrinski est un exemple unique dans l'histoire tchèque, gaulliste et petit notable en Guadeloupe, un itinéraire qui tranche avec l'image résolument continentale qui s'attache aux terres tchèques. Il faut dire que l'isolement commercial qui touche traditionnellement la Bohême-Moravie n'aide a priori pas beaucoup les mobilités internationales. Dès le Moyen-Âge, le bassin tchèque se trouve à l'écart des grands axes commerciaux qui passent soit au nord, soit au sud avec la voie danubienne. Des souverains essaient bien de remédier à cette situation défavorable. La tentative de percer vers la mer Adriatique, entreprise par Przemysl Otakar II, se solde par un échec. De même, Charles IV essaiera en vain de détourner les axes commerciaux vers la Bohême. Jusqu'au XVIIIe siècle, toute vague d'émigration est de toute façon presque impossible. Le servage, qui fixe la population au sol, empêche tout déplacement important de population. Quand émigration il y a, elle est liée à une conjoncture politique ou religieuse tendue. Ainsi, l'exil des membres du clergé catholique lors des guerres hussites ou celui des protestants après la défaite de la Montagne Blanche. Ils trouvent alors refuge en Saxe et en Prusse. Hormis ces saignées ponctuelles, on compte, jusqu'à l'époque baroque, peu d'émigrants tchèques. Le XIXe siècle change radicalement la donne et voit les premières grandes vagues d'émigration. Première destination, les États-Unis, qui accueillent pas moins de 400 000 Tchèques jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Durant l'entre-deux-guerres, un certain nombre émigre également en France. Pendant la période communiste, Tchèques et Slovaques peuvent passer à 2 reprises à travers les mailles du rideau de fer. D'abord lors des 2 premières années qui suivent le coup de Prague en 1948, quand cela est encore possible. Près de 100 000 personnes fuient alors le régime de Gottwald. Plus importante, la vague d'émigration pendant l'année 1968, en particulier après le coup d'arrêt donné au printemps de Prague. Il faut dire que cette année-là, la frontière de la Tchécoslovaquie avec l'Autriche est quasiment ouverte. On ne contrôle presque plus les véhicules qui sortent et ce sont au total 250 000 Tchèques et Slovaques qui quittent alors le pays. Dans certains pays, comme en Suisse, où ils sont 14 500 à s'installer à partir de 1969, ils représentent la première communauté immigrée du pays. En 2008, Miloš Šuchma, installé à Toronto, au Canada, depuis 1968, est collaborateur de l'écrivain Josef Škvorecký, évoquait la communauté tchèque au Canada.
Konec konců, ta emigrace je takovým, dá se říct, odvarem.
L'émigration tchèque représente, au bout du compte, une parcelle de la société tchèque. Il reste des Tchèques, même s'ils sont imprégnés de la démocratie canadienne. Cela leur a d'ailleurs considérablement réussi, comme à leurs enfants.
Notez que les Tchèques n'ont pas toujours choisi l'exil en terres occidentales. À partir des années 1920 et des restrictions imposées par le gouvernement américain, certains opteront pour l'Amérique du Sud, comme en Argentine et au Brésil. De même, à partir de 1968, une partie des citoyens tchécoslovaques optent pour l'Afrique du Sud, ainsi que dans une moindre mesure pour certains États sud-américains comme le Venezuela. On compte aujourd'hui 1 millier de Tchèques en Afrique du Sud. L'un d'eux évoquait sur nos ondes son arrivée avec sa famille en août 1968.
Avant nous, existait déjà un groupe considérable d'employés de Batia qui étaient venus dans la région du Natal pour travailler à l'usine Batia. Je fis connaissance avec certains d'entre eux, ils étaient complètement assimilés.
Les ancêtres de Skrinski, quant à eux, avaient été particulièrement originaux puisqu'ils avaient choisi de s'installer en Guadeloupe. Ce sera bien le seul point positif attaché à la mémoire du lâcheur de chiens.
L'émission en langue française de Radio Prague est maintenant terminée. Merci de votre attention et de votre fidélité. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de nous écouter, vous retrouverez toutes nos émissions sur www.radio.cz/fr.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.